bonjour, c'est Les Livres en la Parole, c'est Robert qui, comme d'habitude, s'est allé se promener du côté, alors là c'est du côté du Café Gazette, où j'ai pu croiser Régine de Tambel, qui nous a sorti son dernier livre, qui s'appelle Trois Ex, qui est un roman, qui a paru comme d'habitude chez Actes Sud. Alors deux petits mots sur Régine de Tambel, vous savez qu'elle est, elle habite dans le coin, elle a fait des études de kinésithérapeute, et puis maintenant elle se consacre entièrement à l'écriture. Et dans un de ses thèmes de prédilection, c'est de s'occuper du corps, puisqu'elle est quand même kiné, et la vieillesse, la sexualité, la maladie. Elle anime des ateliers d'écriture. D'ailleurs, nous en parlerons au cours de cette petite causerie. Alors, il faut savoir que la causerie a été donc enregistrée au Gazette Café, et vous avez un peu de bruit, un peu de brouhaha, mais pourquoi pas. Alors, Trois Ex, qu'est-ce que c'est que ce livre? Eh bien, ce livre, c'est tout simplement autour d'un créateur tourmenté, orgueilleux, agressif et tout ce que vous voulez, alcoolique, qui s'appelle Monsieur Auguste Strindberg. C'est un grand écrivain qui a écrit énormément de pièces, et en particulier il s'est marié trois fois, c'est pour ça Trois Ex, et les trois fois trois unions ratées, terribles, destructives, empoisonnées par sa jalousie, la paranoïa, etc. Et donc Régine de Tambel nous a expliqué pourquoi elle avait pris ce titre là ce roman là, pourquoi elle avait pris ce monsieur, et qu'est-ce qu'elle avait voulu nous dire autour de la vie de Monsieur Auguste Strindberg.
C'est un roman, il ne s'agit pas du tout d'un essai.
Oui, ah non, mais ça c'est sûr.
Voilà, non, bien sûr, c'est un roman. Quand Strindberg écrit sa propre autobiographie, c'est un roman.
D'accord.
C'est un roman, c'est-à-dire qu'il se met lui-même en scène. Comme il a, vous l'aviez dit tout à l'heure, je ne l'ai pas repris, d'ailleurs il faut que je le reprenne. Vous avez bien souligné une chose, c'est qu'il a mis sa vie privée dans son œuvre.
C'est sûr.
Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Parce que justement, quel est le statut de ma vie? Est-ce que j'ai le droit de parler dans mes romans? C'est-à-dire, j'ai écrit de ce roman, hein, je ne dis pas... est-ce que j'ai le droit de parler de ma famille, voilà. Et ça, je crois que c'est des choses où on a quand même... Il y a beaucoup de personnes qui ont encore un petit peu de mal. On le voit, par exemple, aussi avec ce qui se passait pour Christine Angot, avec ce qui se passait pour des personnes qui... On n'en parle pas beaucoup en peinture, mais finalement, quand on voit que Picasso, il les a bouffées, ces femmes.
Ah oui,
les
absolument.
Doramar, tout le cubisme, il est fait des compagnes de Picasso. Tout.
Et Dali, pareil.
Mais est-ce qu'il y a eu une polémique identique? Quand on parle des peintres, est-ce qu'il y a une polémique identique à l'opprobre dont on a couvert Strindberg ou d'autres avant ou après? Là, donc ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser. À qui appartient la vie? À qui appartient le récit de la vie? Est-ce que le réel appartient à une personne? Est-ce que justement, nous ne vivons pas tous des vies de langage, de récits? Je vous parlerai de bibliocréativité après, parce que c'est justement aussi pour ça qu'on peut faire bouger en soi des éléments, parce que toute notre vie, toute une part de notre vie, c'est aussi le récit qu'on en fait. Donc chose qu'on peut faire bouger avec du lexique, avec des mots, avec des lectures, des choses comme ça. Mais voilà, donc le questionnement, c'est ça, c'est Strindberg est-il condamnable pour avoir parlé, pour avoir... Parce que bon, moi, quand on me pose la question, je dis, on admire Bernard Palissy d'avoir brûlé ses escaliers. Ne quittez pas. Mon téléphone sonne. C'est mon ostéopathe. Voilà. Oui, donc, est-ce que je veux dire, bon, tout le monde admire Bernard Palissy d'avoir brûlé ses escaliers, ou tel physicien, ou telle personne, d'avoir travaillé... d'avoir brûlé sa vie, enfin d'avoir travaillé jusqu'à la mort, d'avoir... Bon. Mais je crois aussi que pour un écrivain, bah, se nourrir de tout... Oh, zut, j'entends sa voix. Voilà, je vous prie de m'excuser. Pour un écrivain, je crois que se nourrir de tout, c'est sa vie, ça fait partie. Donc, c'est pour ça que j'avais réagi tout à l'heure en vous disant, mais il y a des clivages impossibles. Ou alors c'est grave. Je veux dire, psychiquement, c'est grave. Voilà. Donc, lorsque M. Strindberg, talonné par, par ses propres femmes d'ailleurs, parce que dans Plaidoyer d'un fou, il dit « Méziri, tu m'as demandé de l'argent, c'est toi qui voulais de l'argent, tu voulais de l'argent, comment je pouvais en gagner autrement qu'en écrivant? Et qu'est-ce que tu voulais que j'écrive d'autre que nous ?» Alors, c'est extrêmement touchant. Bon, il n'aurait pas dû aller jusque-là, je pense, parce que, bon... Mais,
j'ai rien dit, hein. Ouais, j'ai rien dit.
Mais c'est vrai que moi, ça me questionne, ça. Parce que c'est, je trouve que ça va bien au-delà du cas Strindberg. Mais que le cas Strindberg questionne des choses pour nous, aujourd'hui, dans nos vies privées, dans nos vies publiques, dans cette espèce de... peut-être d'impossible limite entre les deux... Je ne sais pas. Je jette aussi, je lance des choses. Hein, peut-être tout à l'heure, vous pourrez y revenir. Hein,
Moi, je pense que effectivement, des idées, des choses qu'on échange avec les autres peuvent intervenir dans les romans et donner des idées pour des personnages ou des choses comme ça. Mais de là, enfin, j'ai cru comprendre que Strindberg, il avait poussé jusqu'au très très loin. Ces personnages ressemblaient, il y en a certains, je ne me rappelle plus lesquels, qui ressemblent exactement à son épouse et au dialogue qu'il a pu avoir. Et il y a un moment, il y a des limites, j'entends bien. Ouais, moi, ce que j'aime bien dans Strindberg, c'est le côté expressionniste. Ça, moi, j'adore l'expressionnisme, et ça, alors là, ce côté-là, pour moi, il est intouchable. Mais il y a des attitudes et dire des choses qui, pour moi, sont un peu peut-être dépassées, non ? Il va un peu loin, peut-être.
Alors, il y a quand même des choses amusantes qu'il faut dire. La première et la troisième femme, les premières et troisième femmes de Strindberg étaient des comédiennes.
Ouais. Qui jouaient ses pièces.
Et oui, qui l'ont aimé, qui l'ont dragué, qui ont voulu l'épouser pour le jouer parce qu'elles étaient fascinées par le dramaturge Strindberg. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme dans toutes les histoires d'amour. On va vers quelqu'un parce qu'on est fasciné. On ferait n'importe quoi pour jouer Strindberg. Et puis après, on va lui dire ouais, mais on va se plaindre après. Mais elle en a avalé des couleuvres, Ziri von Essen, pour pouvoir jouer Strindberg. Parce que moi, il y a un truc qui m'a beaucoup amusée. Elle voulait tellement se libérer de son premier mari, le baron
Frankel,
voilà, qui était un militaire. Elle aussi était baronne, hein, Ziri von Essen, la première femme de Strindberg. Elle voulait faire du théâtre. Mais dans la Suède de cette époque, on ne pouvait pas être comédienne si on était aristocrate, si on était noble. Donc, elle aurait fait n'importe quoi pour déjà plus être la femme d'un baron, pour épouser un roturier, mettre sous le tapis sa propre noblesse, et puis enfin pouvoir monter sur les planches, parce que c'était sa vie, c'était son rêve. Et je ne sais pas si elle n'a pas un peu instrumentalisé Auguste Strindberg, lequel était un roturier de chez roturier, qui rêvait d'aristocratie, mais qui bouffait du sang bleu, quoi, qui était un peu anard sur les bords, qui avait très envie de mettre une bombe sous le trône de je ne sais quel roi à l'époque en Suède. Mais donc c'était ambigu pour Strindberg. Il était à la fois admiratif de la noblesse, il aurait fait n'importe quoi pour ça, et quand il épouse, il le dit dans son œuvre autobiographique, il dit qu'il a épousé Ziri von Essen pour que les aïeux de ses enfants soient des nobles. Vous vous rendez compte? Et c'est vrai, je n'avais pas réalisé. Il voulait que dans l'arbre généalogique de ses enfants, il y ait des nobles de Suède. Et quand on voit que les nobles de Suède venaient de pas si loin, vous savez, Bernadotte, enfin, ça datait de quoi? Il n'y a pas très longtemps. 30 ans. Strindberg est peut-être né 30 ans après la mort de Napoléon.
Voilà, c'est ça.
Enfin bon, je veux dire, c'était pas très ancien, tout ce qui se passait un petit peu juste avant. Bon, voilà, donc c'était pas une noblesse médiévale non plus. Mais voilà, c'était Strindberg, ça. Et donc la poudre aux yeux, les paillettes aussi, ça lui plaisait.
Donc je reprends ma question. Les trois dames, ces trois épouses, est-ce qu'on a une idée assez précise de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles étaient? Et où est-ce que vous avez relativement inventé sur le sujet?
Alors, évidemment, elles n'ont pas laissé d'œuvre, donc à part les traces épistolaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais Harriet Bosse a été une comédienne célèbre, donc sa troisième femme, ça a été une comédienne célèbre. Et Frida Hull, qui était sa seconde femme, a été une journaliste et elle a écrit quelques ouvrages. C'était une Autrichienne. Bon, après, elle a sombré, mais c'était la femme de Wedekind. C'était la...
Si, Fedekind, je crois.
De Fedekind, oui, c'est oui, ça. Oui. Elle n'a épousé que des dramaturges.
Oui.
Elle a eu un fils. Elle a eu un fils avec.
Vedekind, oui, c'est bien Vedekind. Oui.
Ouais, non, mais je réfléchis parce que. Mais elle a fait pique-pendre. Elle a eu une vie assez marrante. Elle a ouvert un cabaret à Londres. Elle était encore plus d'avant-garde que. Je sais pas. C'était vraiment une femme qui a essayé de faire une carrière. Elle aurait aimé, voilà, rassembler des artistes dans son cabaret. Elle aurait aimé. Bon, après, moi, j'ai pas trop développé parce que. Bon, moi, je suis un peu boulimique. Dès que je rencontre des personnages, j'ai tout de suite envie d'écrire sur eux. Et donc, tout en me documentant sur Strindberg, j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires que j'étais obligée de fermer toutes les pistes qui s'ouvraient à moi parce que j'aurais jamais fini ce texte. Voilà, donc je ne suis pas allée explorer plus loin, mais...
Mais toutes les trois, elles étaient assez extraordinaires parce que toutes les trois ont demandé le divorce. C'est ce qui est assez extraordinaire. À cette époque-là, il fallait être sacrément, comment dire, courageux de demander. Je ne sais plus. C'est la première qui s'est mariée trois fois, non ? Qui a divorcé, je ne sais plus combien de fois, et qui à la fin de sa vie, au milieu, je ne me rappelle plus, est partie avec une femme aussi.
Ouais.
Ça, c'est à cette époque-là, c'était pas rien quand même.
Ouais. Mais ce qui est fabuleux avec les artistes, c'est que justement, ils vivent leur vie à fond. Voilà. Comme dirait la chanson, sans se préoccuper du quand dira-t-on.
Absolument, oui.
Mais le quand dira-t-on qui n'a pas manqué, évidemment, de se déverser, de les abîmer, de les salir. Et effectivement, moi, je suis très admirative du courage de ces filles.
Oui,
il y a vraiment fait énormément de choses. Mais je suis admirative aussi du courage de Strindberg. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Justement, mais dès qu'on essayait en ce temps-là de déborder, de dépasser, de sortir de ce qu'il fallait faire, de ce que l'Église...
Le quotidien, quoi.
Voilà, dès qu'on essayait de sortir un peu... on était écrasés, on était étouffés, on était lacérés. Strindberg a été abîmé, a été, je vous dis, condamné pour blasphème. Bon, on voit aujourd'hui, hein, dans certains pays, comment les écrivains sont muselés. Et moi aussi, pour moi, c'était aussi une manière, au travers, vous voyez, en parlant de Strindberg, peut-être de dire, voilà... Ce type-là a vécu en 1900, donc il y a plus de 100 ans, a vécu ça. Mais voilà, imaginez aujourd'hui ce que c'est d'être... Enfin, moi, en tout cas, c'est ma manière peut-être de participer, c'est ma manière peut-être de résister. Et voilà, et d'être présente à une... à ma manière, hein, à une résistance des artistes. Mais quand les artistes résistent pour tout le monde, je crois aussi, hein, qu'il y a cette espèce d'avant-garde, si Strindberg ne s'était pas jeté à l'eau, si les femmes de Strindberg n'avaient pas accepté d'être comme ça, lacérées, pour vivre leur vie d'homosexuel, leur vie Strindberg, sa vie d'artiste, sa vie de créateur, qu'est-ce qui se serait passé?
Oui, oui.
On serait où? Moi, j'existerais même pas. J'aurais des tas de mouflets, j'aurais jamais écrit un bouquin. Voilà, c'est aussi ça. Ma liberté, je sais d'où elle vient. Et je crois que moi, j'ai envie de continuer ce cheminement, ce chemin-là. Et sans lâcher d'un poil, d'un pouce.
Alors, si vous voulez bien, on va un peu parler de la façon dont vous avez écrit ce livre. Moi, j'ai trouvé absolument extraordinaire, parce que d'abord, il est court, c'est bien. Mais aussi, donc, il y a trois grandes parties. Chaque partie a un titre, je ne sais plus, noce de bon, etc. Dans cette partie-là, au début, bon, on voit que vous parlez, vous associez aux femmes, vous êtes chaque fois l'une de ces femmes, c'est je qui parle. Et ensuite, il y a donc, le chapitre est plus ou moins long, et ensuite, il y a toujours un chapitre final qui est écrit ou qui est lu par quelqu'un d'autre, et c'est chaque fois divorcé.
Avec
un point d'exclamation, voilà. Et je trouve que la façon de l'organiser, moi j'ai trouvé remarquable parce que ça fuse, ça va à une vitesse folle, et on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais je pense qu'avec Strindberg on ne s'ennuyait pas. Hein. Et j'ai trouvé que justement votre écriture et la façon d'organiser votre livre, de le structurer, j'ai trouvé que c'était assez remarquable, et j'ai trouvé qu'il y avait une structure qui était très 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 chouette.
D'accord.
Voilà.
Oui, alors sur la question de l'organisation du texte et aussi du style, évidemment, il y a quelque chose de Strindberg là-dedans, en tout cas son énergie, parce que justement, comment dire, les émotions énormes de cet homme, enfin tout ce qui passe au travers de son œuvre et puis aussi au travers de, je vous dis, cette correspondance que j'ai dépouillée, tout ce qui se passe, comment je pouvais le rendre, moi ? Sinon, en étant extrêmement concise, mais très, très rapide.
Il y a des phrases très, très courtes par endroit.
Voilà. Et puis, Strindberg était dramaturge. Je n'allais pas faire des grandes phrases, empoulées, emphatiques, machin. Donc, il fallait que je prenne aussi quelque chose de l'ordre du langage parlé, de quelque chose qu'on peut dire aussi, qu'on pourrait peut-être dire sur scène. Voilà. Donc, j'ai procédé comme ça. Et puis, Strindberg a écrit... Donc, je vous ai parlé de ce recueil de nouvelles qui a été condamné, hein, pour blasphème. Donc, et ce recueil de nouvelles s'appelait « Marié ».« Marié », point d'exclamation. « Marié » au pluriel, point d'exclamation. Parce que Strindberg s'était amusé... Je dis amusé parce que c'était très ironique, très noir. Il s'était amusé à décrire l'horreur du mariage de son époque, l'horreur des mariages, et surtout du côté de l'homme. Comment les hommes étaient abîmés par les femmes. Hein, il le disait, et c'était très courageux, moi je trouve, aussi, hein, à son époque. Voilà. Et ça s'appelait « Marié », point d'exclamation. Et donc moi, c'était évident qu'il a fait trois mariages, il y a eu trois divorces... Et ça m'amusait énormément, voilà, de le reprendre lui-même. Et d'appeler donc ces trois divorces à chaque fois, de créer un chapitre, ça s'appelait « divorcer », point d'exclamation. Voilà. Donc c'était tout simplement, vous voyez, donc vous disiez tout à l'heure, où est la part finalement fictionnelle, où est la part qui respecte un petit peu l'essai, c'est-à-dire qui respecte ce qu'était Strindberg. Ben voilà, c'est là-dedans, c'est dans l'organisation du récit, dans la manière dont j'ai structuré le texte.
D'accord. Alors, avant de conclure et de vous laisser poser des questions, afin que le public vous pose des questions, votre prochain écrivain, c'est encore un petit Barjot ou...
Oui. Mais là, je ne vous en parle pas aujourd'hui.
Oui.
Parce que j'étais tranquillement en train de travailler au prochain roman. Donc, ça va être quoi, fin 2018 ou début 2019? Et puis, donc, Actes Sud m'a demandé un deuxième bouquin sur la bibliocréativité ou la bibliothérapie. Vous savez que j'ai commencé donc vraiment à m'engager dans la manière dont on pourrait utiliser la littérature pour le soin, au sens large. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'étais kinésithérapeute. Bon, j'ai vendu mon cabinet là, il y a 2 ans, mais j'étais kinésithérapeute. Et quand j'ai commencé mes études, j'avais 18 ans, j'ai commencé mes études dans un service de long séjour.
Voilà, vous avez donc écouté Régine de Tambel qui nous parlait de son dernier roman, Trois Ex, un dernier roman qui vient de paraître chez Actes Sud. Il fait 141 pages et il est autour de la vie d'Ogun Strindberg, en particulier ses difficultés auprès des dames et auprès de ses trois épouses. Voilà, ceci termine notre émission pour aujourd'hui. Je remercie la technique et je vous dis à bientôt. Bye bye.